Là-dessus, Gandalf se retira. Et au même moment, on entendit un son clair, le doux tintement d'une cloche dans une tour de la citadelle. Elle sonna trois coups, comme du vermeil dans l'air, puis se tut. La troisième heure depuis le lever du soleil. Au bout d'un moment, Pipin se rendit à la porte, descendit l'escalier et regarda dans la rue. Le soleil brillait à présent, lumineux et chaud, et les tours et les hautes maisons projetaient des ombres longues et nettement découpées sur le côté ouest. Haut dans l'azur, le mont Mindolwin élevait son blanc cimier et son manteau de neige. Des hommes armés allaient et venaient dans les rues de la cité comme si la sonnerie de l'heure appelait à un changement de poste et de fonction.
« 9 heures, dirions-nous dans le comté, » se dit Pipin à voix haute. « L'heure parfaite pour un bon petit déjeuner près de la fenêtre ouverte au soleil printanier. Et j'ai tant envie de déjeuner. Ces gens savent-ils ce que c'est, ou bien est-ce déjà fini? Et quand dînent-ils, et où ?»
Il remarqua bientôt un homme au costume noir et blanc qui déambulait dans l'étroite rue, partant du centre de la citadelle. Il se dirigeait vers lui, et Pipin, qui se sentait un peu seul, résolut de lui parler lorsqu'il passerait. Mais c'était inutile. L'homme vint directement l'aborder.
« Vous êtes Pérégrin, le demi-homme »
demanda-t-il.
« On m'informe que vous vous êtes engagé au service du Seigneur et de la cité. Soyez le bienvenu. »
Il lui tendit la main, et Pipin l'accepta.
« Je me nomme Bérégon, fils de Baranor. Je ne suis pas de service ce matin. » Et on m'a envoyé pour vous enseigner les mots de passe et pour vous dire quelques-unes des nombreuses choses que vous désirez sans doute savoir. Et pour ma part, j'aimerais apprendre de vous également, car jamais auparavant nous n'avions vu de demi-hommes en ce pays. Et bien que nous ayons entendu dire qu'ils existaient, il n'en est à peu près jamais question dans les récits que nous connaissons. De plus, vous êtes un ami de Mithrandir. Parlez-vous souvent avec lui ?
Eh bien, dit Pipin, j'entends parler de lui depuis que je suis tout petit, si vous me passez l'expression. Et ces derniers temps, j'ai beaucoup voyagé avec lui. Mais c'est un livre qu'on n'a jamais fini de lire, et je ne saurais prétendre en avoir vu plus d'une page ou deux. Je le connais peut-être aussi bien que la plupart, cela dit, sauf quelques privilégiés. Aragorn était le seul de notre compagnie à le connaître vraiment, je pense.
« Aragorn ? » fit Bérégon. « Qui est-ce ? »
« Oh !» balbutia Pipin. Un homme qui roulait sa bosse avec nous. Je crois qu'il est au Rohan à présent.
Vous fûtes au Rohan, à ce que j'entends. Il est bien des choses que j'aimerais aussi vous demander quant à ce pays-là, car le peu d'espoir que nous avons réside avant tout dans son peuple. Mais j'en oublie ma mission, qui était de répondre d'abord aux questions que vous auriez à poser. Que voulez-vous savoir, maître Pérégrin ?
Eh bien,
commença Pipin,
si je puis me hasarder à vous le demander... La question qui me brûle les lèvres en ce moment, c'est... Enfin, quid du petit déjeuner et tout ça? Je veux dire, quelles sont les heures des repas, si vous voyez ce que je veux dire? Et où est la salle à manger, s'il y en a une? Et les auberges? J'ai eu beau regarder, je n'en ai pas vu une seule en montant. Moi qui étais plutôt requinqué par l'espoir d'une gorgée de bière, sitôt que nous serions arrivés chez des gens de sagesse et de courtoisie.
Bérégon le considéra d'un air grave.
« Un vieux de la vieille, à ce que je vois, » fit-il. « Ceux qui vont à la guerre pensent toujours au prochain espoir de nourriture et de boisson, à ce qu'on dit. Non que j'ai beaucoup voyagé moi-même. Ainsi, vous n'avez encore rien mangé aujourd'hui ?»«
Enfin, si, en toute honnêteté, si, »
répondit Pipin. « Mais au plus, une coupe de vin et un ou deux gâteaux blancs que votre seigneur a eu la bonté de m'offrir. Sauf qu'il me les a fait payer par 1 heure de questions, et cela donne faim. »
Bérégon rit. À table, les plus grands exploits sont souvent le fait des plus petits hommes, a-t-on coutume de dire. Mais vous avez aussi bien déjeuné que quiconque dans la citadelle, et dans un plus grand honneur. C'est ici une forteresse et une tour de garde, et nous sommes en guerre. Nous nous levons avant le soleil, nous prenons une bouchée aux premières lueurs, et nous sommes au poste à l'ouverture des portes. Mais ne désespérez pas. Il rit de nouveau, lisant la consternation sur le visage du Pipin. Ceux qui ont eu une lourde tâche prennent quelque chose pour se remonter en milieu de matinée. Ensuite, il y a le déjeuner, à midi ou plus tard, selon que nos occupations le permettent. Et les hommes se rassemblent pour le repas principal et pour les réjouissances qu'il peut encore y avoir vers l'heure du couchant. Venez, allons marcher un peu,
trouver de quoi nous sustenter, et nous irons manger et boire sur le rempart et contempler la belle matinée. »
« Une minute, » dit Pipin rougissant. « La gourmandise, ou ce que vous nommez courtoisement la faim, a manqué de me faire oublier. Mais Gandalf, Mithrandir, comme vous l'appelez, m'a demandé de rendre visite à son cheval, Scadufax, un grand coursier du Rohan, la prunelle des yeux du roi, à ce que j'entends, bien qu'il l'ait offert à Mithrandir en récompense de ses services. Son nouveau maître, je crois, a plus d'amour pour cette bête que pour bien des hommes. Et si sa bonne volonté est de quelque valeur pour votre cité, vous traiterez Scadufax avec les égards qu'il mérite. Avec plus de bonté encore que vous en avez montré à ce hobbit, si la chose est possible.
« Hobbit ?» fit Bérégon.
« C'est le nom que nous nous donnons, »
répondit Pipin. « Je suis heureux de l'apprendre, » dit Bérégon, « car je constate que les accents étrangers n'altèrent en rien la beauté du discours, et les hobbits parlent de belle façon. Mais allons, vous me ferez connaître ce bon cheval. J'adore les bêtes, et nous en voyons rarement dans cette cité de pierre. Car voyez-vous, les miens sont originaires des Vaux des montagnes, et avant cela, de l'Ithilienne. Mais n'ayez crainte, nous ne resterons pas longtemps, une simple visite de courtoisie, et nous irons de là aux dépenses. » Pipin constata que Scadufax avait été bien soigné et qu'il était convenablement logé. Car il y avait dans le sixième cercle, au dehors des murs de la citadelle, de belles écuries où l'on tenait quelques rapides coursiers près des logements des estafettes du seigneur. Des messagers, toujours prêts à partir sur l'ordre instant de Denethor ou de ses grands capitaines. Mais pour l'heure, tous les chevaux et cavaliers étaient sortis en mission. Scadufax tourna la tête, hennissant, quand Pipin entra dans l'écurie.
« Bonjour, » lui dit celui-ci. « Gandalf viendra aussitôt qu'il le peut. Il est occupé, mais il te salue et me demande de m'assurer que tout va bien de ton côté et que tu te reposes, j'ose espérer, après un si long labeur. »
Scadufax secoua l'encolure et piaffa, mais il laissa Bérégon lui tapoter doucement la tête et caresser ses larges flancs. « On croirait qu'il est prêt pour une course, non qu'il arrive tout juste d'un grand voyage, » dit Bérégon.
« Qu'il est fort et fier. Où est son harnais? Il doit être beau et richement orné. » « Aucun n'est assez beau et riche pour lui, » dit Pipin. « Il refuse tout harnais. S'il consent à vous porter, il vous porte. Sinon, eh bien, ni mort ni bride, ni longe ni cravache ne pourront le dompter. Au revoir, Scadufax. Patience, la bataille s'en vient. »
Scadufax rejeta la tête en arrière et hennit, si bien que l'écurie en trembla, et ils se couvrirent les oreilles. Ils prirent ensuite congé de lui, non sans s'être assurés que la mangeoire était pleine. Maintenant, voyons à notre propre mangeoire, dit Bérégon. Et ayant ramené Pipin à la citadelle, il le conduisit à une porte sur la façade nord de la grande tour. Là, ils descendirent dans la fraîcheur d'un long escalier jusqu'à un large couloir éclairé de lampes. Des passe-plats étaient ménagés dans les murs latéraux et l'un d'eux était ouvert. « C'est ici le magasin et la dépense de ma compagnie de la garde, » dit Bérégon. « Salut Targon !» cria-t-il à travers le passe-plat. « Il est encore tôt, mais voici un nouveau venu que le seigneur a attaché à son service. Il a chevauché sur de longues lieues en se serrant la ceinture. Il a eu une dure matinée et il est affamé. Donne-nous ce que tu as. » Ils reçurent du pain et du beurre, ainsi que du fromage et des pommes, les dernières de la réserve d'hiver, ridées mais saines et sucrées. De même qu'une gourde de cuir remplie de bière fraîche tirée et des assiettes et des godets de bois. Ils mirent le tout dans un panier d'osier et remontèrent dans la clarté. Alors Bérégon conduisit Pipin à l'extrémité orientale du grand rempart en saillie. À cet endroit, une embrasure s'ouvrait dans les murs avec un banc de pierre sous le rebord. De là, ils pouvaient contempler le matin étendu sur le monde. Ils burent et mangèrent, parlant tantôt du Gondor, de ses us et coutumes, tantôt du comté et des étranges pays que Pipin avait vus. Et à mesure qu'ils conversaient, la surprise grandissait chez Bérégon et il s'émerveillait toujours plus de ce hobbit qui tantôt balançait ses courtes jambes au bout du siège où il était assis, tantôt s'y dressait sur la pointe des pieds pour regarder par-dessus le rebord vers le pays en contrebas. « Je ne vous cacherai pas, maître Pérégrin, » dit Bérégon, qu'à nos yeux, vous semblez presque un de nos enfants, un garçon d'à peine 9 printemps. Pourtant, vous avez connu des dangers et des merveilles comme peu de nos vieilles barbes pourraient s'en vanter. Je croyais que c'était le caprice de notre Seigneur de prendre un noble page à la manière des rois d'autrefois, dit-on. Mais je vois qu'il n'en est rien, et vous devrez pardonner ma sottise.
Volontiers, dit Pipin. Mais vous n'êtes pas loin du compte. Même pour les gens de mon pays, je ne suis encore qu'un garçon, et il me reste encore 4 ans avant mon passage à l'âge adulte, comme on dit dans le comté. Mais ne vous préoccupez pas de moi. Approchez-vous et dites-moi ce que j'aperçois là-bas.
Le soleil montait à présent, et les brumes s'étaient levées dans la vallée en bas. Les derniers haillons flottaient juste au-dessus de leur tête, tels de minces bandes de nuages laiteux, emportés par la brise de l'est qui fraîchissait, faisant voler et claquer les drapeaux et les étendards blancs de la citadelle. Tout au fond de la vallée, à environ 5 lieues à vue d'œil, le miroitement gris du grand fleuve pouvait dès lors être aperçu, partant du nord-ouest et décrivant une grande courbe vers le sud, puis à nouveau vers l'ouest, jusqu'à se fondre dans des lointains vaporeux et scintillants, au-delà desquels s'étendait la mer au loin, à 50 lieues de distance. La vue de Pipin embrassait tout le Pélénor, semé à perte de vue de fermes et de murets, de fenils et de bouveries. Mais nulle part ne voyait-on de bestiaux ou d'animaux d'aucune sorte. De nombreux chemins et sentiers traversaient les champs verts, et il y avait beaucoup d'allées et venues. Des convois de chariots se dirigeant vers la grande porte et d'autres qui en sortaient. De temps à autre, un cavalier arrivait au galop, sautait de sa selle et entrait en hâte dans la cité. Mais les gens et les convois en sortaient surtout, le long de la principale grande route. Elle tournait vers le sud, puis, fléchissant plus rapidement que le fleuve, contournait les collines et passait bientôt hors de vue. Large et bien pavée, elle était longée du côté droit par une importante piste cavalière, elle-même bordée par un mur. Sur la piste verte, des cavaliers allaient et venaient bon train, mais toute la chaussée semblait engorgée par de grands chariots couverts qui s'acheminaient vers le sud. Toutefois, Pipin s'aperçut bientôt que la circulation était parfaitement ordonnée. Les chariots avançaient sur 3 colonnes, les uns les plus rapides tirés par des chevaux, d'autres, de grands wagons munis de belles housses multicolores, tirés lentement par des bœufs. Et tout le long du bord ouest de la route, de nombreuses petites charrettes que des hommes traînaient péniblement. C'est la route qui mène au veau de Tumladen et du Losarnac, au village montagnard, et de là au Lébénine, dit Bérégon. Ce sont là les dernières voitures qui emmènent les vieillards, les enfants, ainsi que les femmes qui doivent les accompagner au refuge. Tous doivent avoir passé la porte et libéré la route sur 1 lieue avant le coup de midi, suivant l'ordre qui a été donné. C'est une triste nécessité. Il soupira. Peu d'entre eux, sans doute, retrouveront un jour leurs proches. Et s'il y a toujours eu trop peu d'enfants dans cette cité, il n'y en a plus du tout à présent. Hormis quelques jeunes garçons qui refusent de partir et qui pourraient encore trouver quelques tâches à faire. Mon fils est de ceux-là.
Il y eut un silence.
Pipin contempla l'est d'un regard inquiet, comme s'il craignait de voir à tout moment se déverser des milliers d'orques dans les champs.
« Que voit-on là-bas » demanda-t-il, désignant un endroit au milieu de la grande courbe de l'Anduin. « Est-ce une autre cité ou quoi ?»«
C'en était une, » répondit Bérégon. « La plus grande cité du Gondor, dont cette place-ci n'était qu'une forteresse. Car là sont les ruines d'Osgiliath, de part et d'autre de l'Anduin, que nos ennemis ont prises et incendiées il y a fort longtemps. Nous ne l'avons pas moins reconquise au temps de la jeunesse de Denethor, non pour y vivre, mais afin qu'elle serve d'avant-poste, ce qui, en outre, nous a permis de reconstruire le pont pour le passage de nos armes. Puis, les terribles cavaliers sont sortis de Minas Morgul.
« Les cavaliers noirs ?»
dit Pipin, écarquillant les yeux, son regard assombri par une vieille peur soudainement ranimée.
« Oui, ils étaient noirs, » dit Bérégon. « Et je vois que vous en savez quelque chose, bien que vous n'en ayez parlé dans aucun de vos récits. »«
Je les connais, » dit Pipin à voix basse. « Mais je ne veux pas en parler maintenant, si près, si près.
Il s'interrompit, levant les yeux au-dessus du fleuve. Et il lui sembla voir là, obscurcissant sa vision entière, une ombre vaste et menaçante. Était-ce des montagnes se dessinant aux limites de la vue, leur découpure comme adoucie par près de 20 lieues d'air embrumé? Ou était-ce seulement une barrière de nuages, dressée devant des ténèbres encore plus noires? Mais plus il regardait, plus il lui semblait que les ténèbres croissaient et s'amoncelaient, lentement, très lentement, et s'élevaient pour engloutir les régions du soleil. « Si près du Mordor !» dit doucement Bérégon.
« Oui, il s'étend là-bas au loin. »
« Nous en prononçons rarement le nom, mais nous avons toujours demeuré en vue de cette ombre. Parfois elle semble plus faible et plus lointaine, parfois plus proche et plus sombre. Elle grandit à présent, et elle s'assombrit. Ainsi, chez nous, la crainte et l'inquiétude grandissent à proportion. Et les terribles cavaliers, il y a moins d'un an, ont repris les passages du fleuve, et bon nombre de nos plus valeureux ont été tués. » C'est grâce à Boromir si l'ennemi a pu enfin être repoussé de notre rive, et nous tenons depuis la moitié ouest de Sgiliath, pour quelque temps encore. Mais un nouvel assaut est attendu là-bas, peut-être le plus grand de la guerre qui approche.
Quand ? Demanda Pipin. En avez-vous idée ? Car j'ai vu les feux d'alarme il y a 2 nuits de cela, et vos estafettes, et Gandalf a dit que c'était signe que la guerre avait commencé. Il semblait désespérément pressé. Mais tout semble se ralentir de nouveau à présent.
Pour la simple raison que tout est maintenant prêt, dit Bérégon. C'est la grande inspiration avant de sauter le pas.
Mais pourquoi a-t-on allumé les feux d'alarme il y a 2 nuits ?
Il est trop tard pour aller quérir de l'aide lorsqu'on est déjà assiégé, répondit Bérégon. Mais les desseins du seigneur et de ses capitaines me sont inconnus. Ils ont diverses façons d'obtenir des nouvelles. Et le seigneur Denethor est différent des autres hommes. Il voit loin. D'aucuns disent que, assis dans la chambre haute de la tour, la nuit, à diriger sa pensée de côté et d'autre, il parvient à lire une partie de l'avenir, et qu'il scrute même parfois la pensée de l'ennemi luttant avec lui. Et c'est pourquoi il paraît vieux, usé avant l'heure, dit-on. Quoi qu'il en soit, mon seigneur Faramir est au dehors des murs. Il a traversé le fleuve dans quelque périlleuse mission et il peut avoir envoyé des nouvelles. Mais ce qui, d'après moi, a fait allumer les feux d'alarme, ce sont les nouvelles qu'on a vues arriver du Lebenin ce soir-là. Une grande flotte s'approche des bouches de l'Anduin, manœuvrée par les corsaires d'Umbar dans le sud. Il y a longtemps qu'ils ont cessé de craindre la puissance du Gondor et qu'ils se sont alliés avec l'ennemi. Et voilà qu'ils portent un grand coup au service de sa cause. Car leur attaque détournera une bonne partie de l'aide que nous souhaitions obtenir du Lebenin et du Belfalas, où les gens sont hardis et nombreux. Nos pensées se tournent d'autant plus au nord, vers le Rohan, et nous nous réjouissons d'autant plus des nouvelles de victoire que vous apportez. Et pourtant,
il s'arrêta et se leva, scrutant l'horizon au nord, à l'est et au sud, les agissements d'Isengard devraient achever de nous convaincre que c'est une vaste stratégie qui se joue, un grand filet qui se resserre à présent autour de nous. Il ne s'agit plus d'escarmouches sur les guets, d'incursions par l'Ithilienne ou par l'Anorienne, d'embuscades et de pillages. Il s'agit d'une grande guerre planifiée de longtemps, et nous ne formons qu'une partie de cette vaste trame, quoi qu'en dise notre orgueil. Les choses bougent dans l'est lointain, par-delà la mer intérieure, entend-on rapporter, et aussi au nord, à grand-peur et au-delà, et dans les terres du sud, au Harad. Et tous les royaumes seront bientôt mis à l'épreuve, et ils tiendront ou tomberont sous la domination de l'ombre. Mais, maître Pérégrin, nous avons néanmoins cet honneur. C'est nous qui, fois après fois, subissons le plus sévèrement la haine du Seigneur Sombre, car cette haine trouve son origine dans les profondeurs du temps et par-delà celle de la mer. C'est ici que le marteau s'abattra le plus durement. Et c'est pourquoi Mithrandir a mis tant de hâte à venir ici. Car si nous tombons, qui tiendra? Et maître Pérégrin, voyez-vous aucun espoir que nous tenions? Pipin ne répondit pas. Il contempla les grandes murailles et les tours et les fiers étendards et le soleil au haut firmament. Enfin, il se tourna vers les ténèbres montantes de l'est.
et il pensa aux longs doigts que cette ombre étendait, aux orques dans les bois et dans les montagnes, à la trahison d'Isengard, à ces oiseaux aux yeux malfaisants et aux cavaliers noirs jusque sur les routes du comté. Enfin, à la terreur ailée, au Nazgûl. Il frissonna, et l'espoir parut s'évanouir. Et à cet instant même, le soleil vacilla pendant une seconde et se voila, comme si une aile noire était passée sur son disque. Il crut alors entendre, presque imperceptible à lui, loin dans les hauteurs du ciel, un cri, faible et pourtant glaçant pour le cœur, cruel et froid. Il blêmit et se recroquevilla contre le mur. « Qu'était-ce donc ? » demanda Bérégon. « Vous avez senti quelque chose, vous aussi ?»«
Oui, »
marmonna Pipin.
« C'est l'annonce de notre chute et l'ombre du destin. Un terrible cavalier des airs. »«
Oui, l'ombre du destin, » dit Bérégon. « Je crains que Minas Tirith ne tombe. La nuit approche. La chaleur même de mon sang semble être dérobée. »